Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Le Rendez-vous des achats, dédié au sujet de l'achat, des marchés publics et de la digitalisation. Actualité, tendances, sujets thématiques, réglementations juridiques et interviews pro seront au cœur de nos podcasts. Vous pourrez découvrir nos deux séries, Reconnecter pour les sujets thématiques et ActuAchat pour les tendances actuelles du secteur. L'objectif ? Vous partager notre expérience et faire de cette chaîne un lieu d'échange et de partage autour des sujets qui nous portent. Nous nous retrouverons chaque mois pour deux nouveaux podcasts d'une quinzaine de minutes chacun. Vous aurez régulièrement la parole pour choisir les nouveaux thèmes et les problématiques que nous présenterons. Alors restez connectés ! Nous sommes ravis de pouvoir vous partager notre expérience et espérons que ce podcast va vous plaire. Très bonne écoute !
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une revue de presse sur les thématiques qui ont marqué le secteur public ces derniers mois. Le rendez-vous des achats décrypte pour vous les sujets brûlants de cette première moitié d'année 2021. CCAG, PNAD ou encore cybersécurité, nous vous expliquons tout. Bonne écoute! Cette année 2021 a été riche en évolutions pour la commande publique. Et comment parler de la commande publique sans évoquer les CCAG ? En effet, ils ont fait parler de cette année. Mais alors, quelles en sont les nouveautés ? Pour rappel, les CCAG correspondent au cahier des clauses administratives générales. Ils régentent ainsi les conditions d'exécution des marchés publics, des rapports entre les différentes parties du contrat. Depuis 2009, 5 CCAG existent. Le CCAG FCS, fourniture courante et services, le CCAG travaux, le CCAG PI, prestations industrielles, le CCAG MI, marché industriel, et enfin le CCAG TIC, technique de l'information et de la communication. En 2019, il était évoqué de réformer ces CCAG. Le but étant de moderniser la commande publique dans son ensemble, mais également de s'accorder avec le nouveau code de la commande publique de 2019. Malheureusement, suite au Covid, cette réforme n'est arrivée qu'en avril 2021 au lieu de l'automne 2020. L'objectif de la réforme concerne notamment la digitalisation de la partie exécution du marché afin de simplifier la communication entre acheteurs et titulaires, mais aussi de répondre aux normes imposées par la RGPD. De plus, la création d'un nouveau CCAG a vu le jour concernant la maîtrise d'œuvre, CCAG MOE. Il permet de passer des marchés publics dans le but de construire ou de rénover un bâtiment sous les instructions du maître d'ouvrage. Une période de transition pour adapter les CCAG a été mise en place entre le 1er avril et le 30 septembre 2021. Ainsi, les consultations pour les marchés engagés via un avis de publicité feront toujours référence au CCAG en vigueur. Donc, pour la maîtrise d'œuvre, cela correspond au CCAG PI. Cependant, les acheteurs peuvent d'ores et déjà faire référence à la nouvelle version des CCAG dans leurs documents contractuels, soit les CCAP. Enfin, l'utilisation n'est pas obligatoire. En effet, il s'applique aux marchés publics qui s'y réfèrent, mais il est possible de déroger à certaines clauses en le précisant dans les CCAP. Pour en savoir plus sur les CCAG, nous avons deux podcasts dédiés à cette thématique. Le premier podcast décrypte les changements et évolutions de cette nouvelle réforme, tandis que le deuxième podcast est une FAQ réalisée par deux juristes, Gwendoline Gillet et Adèle Crosvix. Il est consacré à vos questions et interrogations sur l'application des CCAG. Depuis le début de l'année 2021, la commande publique se met au vert et le gouvernement souhaite se positionner en faveur de l'écologie grâce à la mise en œuvre de lois et plans d'action. Ainsi, après plusieurs mois de discussion, la loi Climat et Résilience a été adoptée le 20 juillet dernier par le Parlement. L'objectif de cette loi est le renforcement de la commande publique comme levier de la transition écologique. Ainsi, d'ici les 5 prochaines années, les marchés publics auront l'obligation d'intégrer une clause écologique en plus des facteurs prix et qualité. Des clauses sociales seront également intégrées pour les marchés publics et les concessions. La loi va plus loin en incorporant des indicateurs tels que le taux de recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour les achats publics socialement responsables. Nous continuons cette revue de presse sur le thème de la commande publique avec la sortie du guide pour rebondir. Effectivement, la ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Agnès Pannier-Runacher, a mis en place un guide pour favoriser la relance grâce au marché public. Ce guide est à destination non seulement des entreprises qui candidatent aux appels d'offres, mais aussi vers tous les acteurs économiques, notamment les acheteurs publics. Ce guide évoque à nouveau la loi ASAP, loi d'accélération et simplification de l'action publique, validée le 3 décembre 2020, mais également les mesures prises par le gouvernement pour donner suite à la crise du Covid, comme l'aide à la trésorerie, la facilitation des candidatures, la réévaluation des seuils, le soutien aux PME-TPE. Ainsi, le gouvernement veut répondre aux besoins du moment avec l'appui d'institutions telles que le MEDEF, CPME ou encore la CCI. Passons à une autre actualité de la commande publique. Mais cette fois, cela concerne la commande publique européenne. Nous savons que la France présidera l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022. Pour Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, il est important que la commande publique soit une priorité lors de la présidence. En effet, il souhaiterait que les directives européennes sur les marchés publics évoluent pour permettre de plus grandes préférences territoriales. À voir si cela sera mis en place, mais notons que les textes n'ont pas été revisités depuis 2014. S'ajoute à cela la crise sanitaire qui incite à repenser les modèles aussi bien français qu'européens. Pour terminer cette rubrique sur la commande publique, parlons du nouveau rapport publié par la DGAFP concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Cette étude montre que des moyens sont mis en œuvre pour faire progresser la place des femmes étant donné qu'elles représentent 2/3 des emplois publics. Les communes sensibilisent leurs agents publics et managers afin que cela s'ancre dans la culture et non seulement dans les textes ou réglementations. Par exemple, la commune d'agglomération du Pays de Grasse, qui compte 530 agents pour 70% de femmes, a permis à ses agents de s'interroger sur les questions de genre. Cela a débouché à un intranet dédié à l'égalité homme-femme et à la prévention du sexisme. Et vous, votre organisation a-t-elle mis en place des actions spécifiques? N'hésitez pas à interagir avec nous pour que nous puissions échanger ensemble sur ces questions d'actualité. Nous poursuivons cette revue de presse avec les thèmes IT les plus abordés ces derniers temps. Et c'est avec l'open data que nous allons débuter. L'open data correspond au partage des données auxquelles tout le monde peut avoir accès. Selon la définition de l'Open Knowledge Foundation de 2005, les critères indispensables de l'open data sont la disponibilité, la réutilisation, la distribution et la participation universelle. De manière générale, les données ouvertes proviennent du gouvernement ou du secteur public. Ainsi, l'open data fait partie du tissu local depuis longtemps. Les territoires ont compris son intérêt dans une variété de secteurs, météo, transport, environnement, culture. Croisées avec d'autres data, elles permettent aux organisations publiques l'optimisation de leurs processus, la réduction des coûts ou la proposition de nouveaux services. Par exemple, la région du Pays Basque exploite ainsi l'open data grâce à un portail nommé Zabal, qui permet à tout le monde d'être au fait de l'agriculture de son territoire, biologique, préservation des terres et eau. L'autre sujet au cœur de l'actualité est la cybersécurité. Depuis de récentes attaques, notamment dans les hôpitaux français, ainsi que la pandémie forçant le passage au télétravail, les entreprises sont obligées d'être plus prudentes pour éviter les cyberattaques. Une cyberattaque cible les systèmes d'information ou les entreprises dépendant de la technologie et des réseaux afin de voler, modifier ou détruire un système sensible. Nous constatons ainsi que les PME sont davantage concernées par les cyberattaques car elles sont moins protégées que les grandes entreprises. Mais comment protéger ces données sans avoir un impact carbone élevé? Malgré ces risques, nous sommes en droit de nous poser la question. Les entreprises doivent respecter des normes d'émission et déclarer leur bilan carbone. De plus, la loi Grenelle 2 impose aux entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités de plus de 50 000 habitants de s'engager dans un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, plus leur empreinte carbone est élevée, plus elle pollue et génère des effets néfastes sur la planète. Le problème qui se pose d'autant plus concerne le passage au télétravail. Effectivement, les entreprises doivent renforcer les couches de sécurité pour éviter les cyberattaques. Cependant, ces couches de sécurité ont une empreinte carbone très importante, c'est alors un cercle vicieux. La solution, la mise en place d'une stratégie cloud qui, en plus d'être moins polluante, bénéficie d'une meilleure protection des données contre les menaces. En parlant du cloud, l'édition 2021 du Global Cloud Survey de Denodo vient d'être publiée. Dans cette étude, 150 entreprises ont été interrogées concernant l'impact du cloud. Et le résultat de cette étude démontre que le cloud continue de progresser. En effet, les entreprises en sont de plus en plus consommatrices. Toujours selon l'étude, les organisations sont de plus en plus nombreuses à migrer les charges de travail avancées vers le cloud, 15,5% en 2020 contre 19,6% en 2021. Les préoccupations premières sont la sécurité et la conformité pour 37% des répondants. Vient ensuite les questions de compétences pour 24% des entreprises. De plus, les technologies de déploiement et de gestion du cloud progressent sûrement mais lentement. Tandis que 50% des répondants utilisent l'outil de conteneurisation Docker afin d'automatiser des tâches et favoriser la portabilité. Pour information, la conteneurisation est une méthode de rassemblement du code et de ses composants, tels que les bibliothèques, frameworks et autres dépendances, de manière à les isoler afin qu'ils soient adaptables à n'importe quel environnement. Pour conclure, le cloud est une stratégie d'avenir afin de sécuriser les données des entreprises. On en est seulement aux prémices. Pour terminer, parlons de la thématique achat en évoquant trois chiffres clés. Effectivement, selon l'OCDE, le PIB français a mieux résisté au deuxième confinement qu'au premier, malgré la chute du PIB de 7,9% en 2020. Cependant, l'OCDE estime également une reprise de la croissance à 5,8%. Cela va dépendre de la crise du Covid à venir, mais également des politiques sociales ou bien encore du comportement des ménages. Un chiffre positif ? 10% des entreprises surfent sur la vague de la crise sanitaire par effet d'aubaine. Un exemple concret concerne l'industrie du plastique. Effectivement, depuis la crise, les industriels de ce secteur vantent les mérites de leurs matériaux qui auraient des propriétés barrières certaines. À cela s'ajoutent les quantités importantes de ventes de masques, de blouses et autres produits indispensables durant la pandémie. Cependant, un problème se pose. Les emballages plastiques ne sont pas reconnus comme gestes barrières. Ainsi, la Commission européenne et l'industrie du plastique sont en discussion sur le report de certaines mesures concernant l'interdiction du plastique. Nous verrons dans les prochaines semaines si ces débats aboutissent, mais il serait surprenant que la Commission européenne accepte de faire marche arrière, surtout lorsque les médecins prouvent que le plastique ne protège pas contre le virus et que celui-ci pollue énormément les océans. Le développement durable est également un enjeu important. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place le PNAD, soit le Plan National d'Action pour les Achats Durables. Ce plan d'action est déjà la troisième édition mise en place par le gouvernement. En effet, les deux précédents avaient vu le jour en 2000 et avaient été finalement révisés en 2014. Ce troisième plan prend effet de 2021 jusqu'à 2025. Les objectifs de ce troisième plan sont variés. Préserver, améliorer et valoriser les ressources naturelles sur le long terme, satisfaire des besoins humains en matière de santé, d'éducation, de logement et d'équité sociale, et enfin créer des richesses à travers un usage raisonné des ressources naturelles. Ainsi, l'impact sur les achats durables est non négligeable, car ceux-ci sont un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable. Toujours dans la lignée d'actions plus durables, aux États-Unis, le programme Diversité Fournisseur a vu le jour grâce au département du commerce des États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Il est défini comme tel, un programme commercial proactif qui encourage le recours à des fournisseurs appartenant à des minorités, à des femmes, à des vétérans, à des membres de la communauté LGBT, à des vétérans handicapés et à des petites entreprises. Comment le mettre en place en France ? En travaillant avec des startups et des petites entreprises sur des sujets innovants, en favorisant l'achat de produits fabriqués par des personnes handicapées, en collaborant avec des entreprises issues de quartiers, ou bien encore avec des entreprises locales, ou enfin en encourageant le développement de filières durables et certifiées en France ou ailleurs dans le monde. Les avantages d'un tel programme ? Cela permet d'attirer plus de clients qui sont sensibles aux démarches RSE des entreprises, mais également de répondre à des besoins en matière d'achat de manière innovante, et cela limite les risques fournisseurs via le maintien ou la mise en place de filières locales ou plus durables à l'étranger. Regardons vers le futur pour terminer cette revue de presse. Effectivement, la fonction achat est amenée à évoluer suite à de nombreux défis. Mais comment va-t-elle évoluer les prochaines années ? Selon Philippe Duloup, la performance achat va se développer en prenant en compte l'innovation, l'agilité, mais en allant également vers des achats plus verts et plus durables. La digitalisation ne va pas cesser de croître, menant jusqu'à la blockchain, technologie récente qui constitue une nouvelle norme pour les transactions numériques. De plus, la relation avec les fournisseurs risque d'évoluer pour laisser place à des nouveaux business models basés sur des réseaux intégrés liant les producteurs, fabricants et clients. Enfin, les acheteurs devront acquérir des compétences diverses et variées afin de mieux appréhender les défis de demain et mettre en œuvre des nouvelles stratégies. Ainsi s'achève notre revue de presse. Nous espérons que ce format vous a plu et que les sujets vous ont intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de nous dire si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques ou sujets d'actualité lors de notre prochain podcast. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn, Le Rendez-vous des Achats. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.